Et bonjour à tout le monde, merci d'être à l'écoute de 48FM pour un plateau en direct de l'espace événement Georges Fraîche. Nous sommes au Salon du Vin, la 13e édition organisée par les Sarmontel avec toujours fidèle au poste son président. Guy Salaï, bonjour.
Bonjour.
Nous avons aussi deux viticulteurs qui sont avec nous, une viticultrice pour commencer. Je vous laisse vous présenter votre domaine.
Oui, bonjour, Madame Lacuarda du domaine Master Vino sur la commune de Pézenas.
À Pézenas,
en
voilà, avec du vin qui chante.
Voilà.
Comme l'accent.
C'est ça. J'ai un accent prononcé.
Et monsieur
Cosset, donc Château Bouscaïous à Gaillac, dans le Tarn, dans les premières côtes, à côté de Cordes-sur-Ciel.
D'accord, merci beaucoup. Il y a Eric qui est avec nous pour 48FM, notre spécialiste du vin. Je vais te laisser le micro après. Guy, comment ça a démarré cette 13e édition? Et un mot peut-être sur le concours aussi?
Ben, ça a démarré très très calmement puisque effectivement on a été impacté par le manque de stationnement à proximité. Donc bon, mais ça, on a été mis devant le fait accompli. J'espère qu'aujourd'hui on va faire du rattrapage parce que ça devient compliqué. Après, par contre, au niveau du concours, là par contre ça a été extraordinaire. Je crois que c'est la première année. On est sur la 13e édition du Salon du Vin, 11e sur le concours. Mais cette année, c'est oui la première année où on a eu autant de qualité dans les échantillons qui ont été proposés. Et ça a été relativement compliqué parce que les trois premiers sont primés et c'est dommage toujours pour le quatrième. On a toujours ce regret-là. Mais bon, la règle du jeu étant celle-là, et ben on l'applique. Mais oui, là, cette année, les médailles, elles sont plus que justifiées.
Alors, c'est du vin de quelle année qu'on a pu retrouver ici?
Alors, donc, nous, le concours, c'est toujours le même principe. Hein. On est sur trois familles, les AOP, AOC 2020-2021, les IGP, VDP en 2020-2021 et tout ce qui est 2019, 2018, 2017 et encore avant. Tout passe en vieux millésime, puisque c'est comme ça que c'est classé par l'INRA. Et par conséquent, on confond aussi bien l'IGP que l'AOP. Voilà.
Le vin se porte bien?
Le vin se porte bien, la vigne se porte moins bien. On en parlait à l'instant. Hein, finalement, à chaque année, une petite catastrophe arrive. L'année dernière, c'était la partie gelée. Après, on a eu les brûlures de l'été. Cette année, il ne faudrait pas que ça soit trop sec non plus. Enfin, on va pouvoir en redébattre de tout ceci. Voilà.
Et au niveau des producteurs qui sont là, c'est très régional ou non?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette année, effectivement, on a eu des fidèles qui sont revenus, bien sûr. Il a fallu faire un choix, puisqu'on voulait avoir un maillage un peu plus représentatif que les années précédentes. Donc, on a frappé à la porte de Gaillac, etc. Mais avec la volonté, pour les vins du Tarn, puisqu'ils sont dans la région, de prendre un seul représentant, puisqu'on n'a pas énormément de place. On est au premier étage de l'espace événement. Et on a eu plusieurs demandes. Bon, on avait retenu Château Bouscaïous puisque c'est un domaine qui existe, qui a Pignon-sur-Rue et tout, et qui était les premiers à faire la demande. Donc voilà, on a reproduit le même schéma pour les Cadurciens, hein, Cahors. Là aussi, on a beaucoup de gens qui aimeraient venir, mais il faut être raisonnable. Il faut que tout le monde gagne son déplacement. Donc on fait un choix, c'est arbitraire, pardon, mais à un moment il faut exercer ça.
On va poser la question aux premiers concernés aussi. Avec tous ces changements, ces problèmes climatiques, est-ce que les vignes sont obligées de se réinventer?
Alors je crois que là, d'abord, ils sont obligés aussi de faire même plus que se réinventer. Ils sont obligés d'arracher, parce qu'à certains endroits, la vigne avait déjà tellement souffert que elles ont été achevées cette année. J'en parlais avec Mass Alexandre, par exemple, hein, sur Agnan. Donc l'année dernière, il y avait une dégradation près de 60-70%. Et avec ce qui s'est passé cette année, ça y est, là, ils vont remplacer complètement. Mais on va demander peut-être sur Pézenas comment ça se passe. Et après, on demandera aussi à Gaïa, comment ça se passe sur Pézenas, hein, directement.
Mais nous, les vignes qu'on peut arroser, c'est déjà un plus. Après, en mortalité, on s'aperçoit que d'année en année, le cep ne résiste moins bien. Il y a des maladies qu'on ne sait pas, qui sont nouvelles et qu'on ne sait pas comment neutraliser et qui donc détruit au fil des années le cep. Donc nous, comme surtout mon mari, c'est lui qui est dans les vignes, hein, il aime la nature, donc il replante chaque année des cèpes. Donc c'est compliqué, quoi. C'est un travail qui est assez dur, mais lui, il veut garder son vignoble uniforme. Puis bon, après, suivant l'âge de la vigne, ben, obligé d'arracher et de replanter un autre cépage dessus, en fonction, bien sûr, du climat actuel.
Mais quand on replante, c'est pas immédiat, du coup, il faut attendre.
Non, on attend 3 ans parce que bon, en plus, ça devient de plus en plus compliqué par rapport aux augmentations de tout ce qui est fourniture. Donc, il faut tout gérer et on met des cépages toujours aussi en fonction du climat et aussi en fonction de ce que nous on recherche dans notre vin. Voilà.
Oui, pour le coup, vous avez changé de variété ou vous
non,
restez toujours
non,
sur
pour le moment, on n'a pas replanté. On a replanté récemment. Pour le moment, on attend un petit peu parce que bon, c'est long de pouvoir avoir la récolte prochaine. Et avec le gel de l'année dernière, le domaine, bon, on vient de refaire un autre domaine puisqu'on avait une cave qui était petite. Donc, on a fait un domaine avec une cave plus grande. On a un petit caveau, on a l'habitation et il faut faire aussi tout ce qui est arboré pour que ce soit beaucoup plus joli. Il faut faire la clôture et bon, financièrement, ça prend du temps si on veut faire vraiment quelque chose de bien. Donc on est obligé de faire petit à petit, comme on dit. Ça fait des priorités.
Vous parliez des problèmes des approvisionnés, des problèmes aussi pour les contenants.
Voilà, pour les contenants, c'est très compliqué. Là, on veut mettre en bouteille, et on a du mal à trouver des bouteilles blanches. Donc, mettre du rosé ou du blanc dans des bouteilles couleur foncée, chêne, c'est pas très représentatif. En vrai, vis-à-vis du client, on distingue pas la couleur, donc c'est compliqué, quoi.
Et Gaillac a souffert un petit peu, alors?
Alors, si vous voulez, au risque, enfin, comment dirais-je, sans prétention d'avoir aussi également raison, je diviserai les choses un petit peu en deux. La philosophie des petits rendements des vieux terroirs en conservant les vignes le plus longtemps possible. Et puis la philosophie des gens qui veulent plus de production, qui peuvent arroser, qui vont sur des marchés différents. Nous, on est en première côte à côté de Cordes-sur-Ciel. On n'a pas d'eau, on peut pas arroser. Par contre, on a un terroir qui se prête, si on est modeste, à la conservation. Et elle a, entre guillemets, longue vie, puisqu'on a des vignes qui ont, cette année, 120 ans, et qui se portent très bien, à condition qu'on soit raisonnable sur la taille et sur les rendements qu'on demande. De notre côté, des gens qui sont plus bas dans la plaine, qui ont autant raison que nous, mais eux irriguent, mécanisent davantage, cherchent plus de rendements, d'autres possibilités. Au final, je pense que tout le monde aura son compte. Mais pour ce qui nous concerne à nous, on privilégiera plutôt des petits rendements et de l'enracinement parce que le terroir donc de chez nous à Cordes, c'est du caillou calcaire relativement friable entre 4,50 m et 6 m d'épaisseur. Et lorsque le porte-greffe est installé, ce qui prend du temps, on a un plantier, nous, derrière la cave, qui a 4 ans d'existence. Il y a encore 20% qui n'ont pas atteint la marne fraîche, donc qui sont crevés, qu'on va mettre peut-être 6-7 ans, ce qui peut surprendre pas mal de vignerons, pour implanter la vigne. Par contre, une fois que le porte-greffe sera dans le frais, on n'est plus dérangé avec ces problèmes-là pour le moment. De la même façon que, si on vendange plus tôt, on n'est pas embêté non plus par une évolution du degré, puisque par exemple dans les rouges, au niveau polyphénol et anthocyane, on a ce qu'il faut, même si on coupe plus tôt, et on peut sortir des vins encore autour de 12 degrés et demi. Voilà. Mais ça, sans prétention d'avoir raison, et en fonction de notre terroir à nous. Plus bas sur Gaillac, c'est donc déjà différent.
Vous parlez de terroir, et vous avez un domaine sur à peu près combien d'hectares?
Nous, on a 34 hectares.
D'accord, un master vino.
24.
24, voilà. Voilà.
Est-ce qu'on n'aura pas au final un risque d'uniformité du vin avec des cépages où on n'a pas besoin de beaucoup irriguer, avec des cépages qui résistent à la chaleur? Est-ce qu'on n'a pas ce risque-là?
L'identité du terrain, parce qu'effectivement le sol modifie la saveur sur certains cépages. Mais, pardon de le dire, moi je trouve qu'il y a trop de régularité ou d'utilisation. Ça se construit de partout. Il n'y a pas une grande différence, il n'y a pas une grande originalité, ça me dérange un peu. Par contre, ce que je trouve d'intéressant, c'est quand on est sur des petits domaines comme vous, il y a quand même du suivi, de la constance, et il y a du professionnalisme. Donc, vous tombez pas dans le piège de tous les ans, c'est standard, mais vous acceptez la différence du millésime. Et moi, c'est ce que je recherche, et tous mes amis et tous ceux qui sont dans le métier du vin, c'est ce qu'ils recherchent.
Donc voilà, c'est ce que vous voulez dire, en tant que vigneron indépendant, toutes les ventes sont en clientèle directe, l'intérêt du consommateur à venir chez nous, c'est de retrouver chaque année la philosophie maison, parce qu'on a des méthodes de vinification qui changent pas beaucoup, mais d'avoir un intérêt à découvrir un nouveau vin. Contrairement à des vins, pardon de le dire comme ça, de marque, pour lesquels on sait avant d'ouvrir la bouteille ce qu'on va trouver, parce qu'il y a une régularité pour l'autre. Et je reviens juste un petit peu en arrière pour dire que, par exemple, encore une fois, sans prétention d'avoir raison du tout, mais par rapport à la philosophie maison, dans nos terroirs à nous spécifiques, on va planter en 2024 une nouvelle vigne. On va installer un pommon faisait il y a 50 ans et encore avant. On va attendre 2 ans de plus et on ira greffer nos propres bois de nos vignes qui auront à l'époque donc 122-123 ans sur ces porte-greffes-là pour garder ces spécificités et garder ces terroirs et ces identités. Et je pense que là, dans des petits volumes, dans des petits, bon, en étant très modeste, je crois qu'on sera dans une certaine forme de raison, quoi.
Oui, mais après, de l'autre côté, ça veut dire aussi que le métier demande de plus en plus d'argent.
Absolument.
Et il faut avoir de la réserve financière. Absolument. Et actuellement, la réserve financière, elle commence à être un petit peu épuisée.
Beaucoup de patience aussi.
Parce que, voilà, les normes, elles sont de plus en plus strictes. Mmh. On vous demande d'être de plus en plus professionnel. Et en plus, on le disait et on le répète chaque année, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il assure toute la palette des métiers, depuis déjà la sélection du porte-greffe, jusque dans la mise du carton et la vente sur le stand.
Ça fait beaucoup.
Donc, là aussi, ça fait beaucoup de choses à maîtriser, avec autant de risques à chaque étape. Ouais. Voilà. Et les banques, elles ne suivent pas systématiquement non plus.
Parce que là, vous êtes tous les deux dans des domaines où vous faites tout de A à Z?
Oui, si, également.
Jusqu'à la vinification.
Oui, et... tout à fait. Et vente directe. Avec réception à la cave depuis un peu plus de 30 ans et des salons et des ventes directes pour justement installer de la relation humaine au travers de notre produit, quoi. Parce qu'on se rend compte que quand on crée de la relation autour d'un produit et que ce produit plaît, c'est vrai, y compris chez les jeunes. On a eu hier soir pas mal de jeunes qui nous disaient mais nous on fait l'apéro, on se réunit, on casse la croûte, on est avec le vin, quoi. Et ils sont demandeurs d'explications, ils sont demandeurs d'identité, et quand ils découvrent comment on travaille et comment on peut leur faire partager les choses, ben ils adhèrent complètement, quoi, complètement.
Bon, après, il faut quand même reconnaître aussi que les vins, il y a eu un travail, un bon travail, une sacrée belle évolution. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de respect sur le travail de la vigne, il y a des reconnaissances, il y a de plus en plus de domaines qui sont, on disait sur le bio, mais moi je suis encore plus attaché au logo du Déméter, qui est quand même compliqué à obtenir. Ceci dit, tout le monde n'en fait pas la demande, mais on s'aperçoit qu'il y a un professionnalisme évident dans ce domaine-là, de l'environnement. Et ça, c'est très intéressant, surtout chez le petit viticulteur.
Ouais. On disait déjà que le bouche à oreille était quelque chose d'important pour notre survie. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et autres, ben, je dirais qu'on a zéro marge d'erreur, quoi. Parce que si on a le moins de problèmes quelque part, automatiquement, on a une diffusion générale sur les... qui permet aux consommateurs d'être au courant et qui nous mettrait en difficulté, quoi. Donc on est absolument tenu, on y était toujours, mais on se met encore un peu plus sur la brèche et dans l'attention de... Voilà.
Oui.
Alors, du vin autour de la table, on commence par le blanc ou par le rouge?
Eh ben, écoutez, je crois qu'on a en fait deux blancs.
Ah, on a deux blancs. Ah ben. Alors, on commence par madame.
Donc, ça va, on va gagner pour les dégustateurs. Il y en a un qui est en rouge.
Ah non,
déjà.
Il est rouge.
Ah, c'est en rouge. Il a triché au dernier moment. Ouais. Allez, alors, on va commencer. On va commencer peut-être par un petit blanc du Master Vino.
Donc, nous, on a fait un muscat moelleux. Parce qu'on n'en avait pas et on avait beaucoup dedans, même le muscat, enfin, un peu sucré. Nous, on a fait un moelleux à 30% de sucre uniquement. Donc, c'est sur le fruit. Il y a un petit peu le sucre du fruit. Et après, ça reste quand même assez léger et ça se consomme, ça peut se boire avec surtout tout ce qui est gâteau, chocolat, même avec du roquefort. On a un ami qui est un restaurateur qui nous a fait découvrir ça avec du roquefort. Le gras du vin s'harmonise parfaitement avec le gras du fromage. Voilà.
D'accord, bah alors on va le déguster peut-être, hein. Glou-glou, on remplit les verres.
Voilà, et pendant que vous servez, je vais discuter avec monsieur. Vous faites quoi comme vin? Du rouge donc? Du blanc aussi? Alors,
nous on a, Gaillac a l'habitude de communiquer sur le fait que le vignoble aux 7 vins, donc c'est pour le vignoble, il y a même une faiblesse, parce que le consommateur est un peu moins piloté dans l'image. Mais donc, on fait une gamme complète. On fait de la méthode ancestrale, qui est un effervescent naturel. Donc, en méthode ancestrale, j'allais dire pure et dure, très lente et très longue, mais qui donne un produit très sur le fruit, du blanc sec, du blanc perlé. On fait du vin de voile, et vin élevé sous voile en barrique, donc qui peut avoir entre 9 ans et jusqu'à 25 ans, éventuellement, de stockage en barrique. On fait du rosé, qui est un rosé vendangé à la base d'un cépage qu'on appelle le Jurançon noir, qui n'est qu'à Gaillac, qui n'a rien à voir avec le terroir de Jurançon. On fait des rouges, et on fait des doux moelleux, aussi en vendange tardive. Bon, les rouges, on en parlera tout à l'heure, et les moelleux, ils sont faits à base de mozzac, aussi, et un petit peu loin de l'œil. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à Gaillac, ils font de l'élevage de vin blanc sous voile. Dans le Jura, la réglementation est très stricte. À Gaillac, on a un peu plus de latitude.
Ouais,
on n'est pas sur les mêmes productions non plus. Voilà.
Je dirais que je n'étais pas forcément d'accord avec ce qui a été sorti sur Gaillac, parce qu'à mon avis, c'est un peu court.
Voilà.
Et moi, j'aurais bien voulu qu'on mette au moins 9 ou 10 ans d'élevage
de barrique. Oui, absolument. Mais voilà. Après, c'est vrai aussi que le vin jaune du Jura a une part du marché qu'ils ne veulent pas, ils veulent pas perdre. C'est une évidence. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'apport supplémentaire durant la maturité du vin dans la barrique. Donc, la pellicule de levure va faire un voile en surface et il y aura une réduction naturelle du vin. Et voilà, c'est ça. Et le voile, c'est cette partie morte de levure qu'on va avoir en surface qui vont faire un petit rideau.
Hein. Et qui protégera le vin, qui donnera ce côté très particulier. Quoi.
Et on va avoir un vin qui va prendre de la couleur avec le temps et de l'onctuosité. Par contre, là, je goûtais le petit muscat. Ouais. C'est très intéressant. Hein. On a un bouquet, une palette aromatique, déjà un premier nez qui est extraordinaire. Vous disiez alors il est à 30% de sucre.
Oui.
C'est surprenant parce que j'aurais comme ça, j'aurais dit plus.
Parce que nous disons qu'on ramasse nos raisins vraiment à la maturité. Donc ils sont très mûrs. Et donc vous avez la concentration aromatique du raisin. Donc c'est vrai qu'il y a toujours, on croit qu'il y a du sucre, mais c'est le raisin qui est mûr.
C'est très bon parce qu'il y a beaucoup de longueur aussi. Hein.
Voilà. Alors ça, c'est impressionnant parce que effectivement sur un muscat comme ça, ça surprend. Et en plus, même servi, le parfum en reste.
Ouais.
On l'a encore dans le verre un petit peu après. Et c'est goulayant en même temps. Ouais. Je comprends que c'est un vin féminin. Ça
félicitations, madame. Félicitations.
Merci.
Mais vous avez oublié le dessert qui va avec. Mais
ah,
bon,
oui.
Ça sera alors pour l'année prochaine.
D'accord.
Mais c'est vrai que là, on ne se trompe pas. Hein. C'est... On a les marqueurs, mais c'est vraiment très bon. Ouais.
Oui, et puis on voit que le vin est abouti. Alors moi, je suis pas contre de trouver un petit peu de dépôt dans la bouteille, parce que ça veut dire que le filtrage est assez naturel, d'une certaine manière. Et donc, c'est pas un vin qui est brusqué, qui est mécanisé. Voilà. Et j'aime ça parce que c'est le reflet d'un travail de viticulteur. Tout l'intérêt est là. Et du coup, on n'abîme pas le vin, on lui laisse la totalité de ses arômes. Et on ne le dérange pas parce qu'on n'abîme pas le pépin et on ne donne pas de puissance dans le vin grâce à ce pépin écrasé. Et là, par contre, alors c'est super bien maîtrisé. Là,
merci.
Hein. Bravo.
Enfin, remercier monsieur.
Superbe, vraiment.
Il est plus à la vinification que moi.
Même si il est de 2000, pardon, il est 2021
Oui, c'est ça.
Alors, il va s'enrichir celui-ci en plus. C'est génial, ça.
Ouais. Bon, alors, oui, donc, on n'en fait pas beaucoup, donc.
Alors, on ne vous dit pas aussi que vous avez d'autres stands.
Si, on en a, mais je veux dire qu'on n'en fait pas nos grosses quantités.
Bon, après, donc, le terroir de Pézona, c'est assez riche, justement, pour produire ça. Hein. Ouais. Tous les terroirs n'auront pas la chance d'offrir cette richesse en sol. Mais, ben voilà, vous pouvez retrouver ce fameux vin sur le stand de Mastervin en rentrant de suite à gauche, dans l'espace événement. Venez le découvrir. Il mérite d'être dégusté et peut-être un tout petit peu plus frais, mais là, il est déjà très, très bien.
On fait ce qu'on peut, comme il fait chaud.
Mais vous avez une grande capacité, puisque je vois que votre mari, franchement, il travaille bien. Hein.
Merci.
Ouais, c'est ce que j'ai te demandé. C'est un vin qui se boit à quelle température
Alors que ici, ça dépend ce qu'il va accompagner, ce vin-là.
Ah, d'accord.
Il ne faut pas rester sur les standards de notre éducation de tous les jours. Les petits muscats comme ceci, on peut les prendre même en cours de journée. Et là, on va les prendre frais, carrément, sous une tonnelle, voilà, avec du petit biscuit un peu sec. Et après, moi, je préconise d'ajouter de la pâte d'amande ou autre à côté, ou de l'amande grillée, tout simplement. C'est délicieux, ça passe bien. Mais après, si on les rentre dans un menu, on peut même aller sur carrément un petit foie gras, là, qui sera accompagné de brisures de noisettes ou de la confiture de figues à côté. Là, on aura une excellence dans les saveurs, ça, c'est sûr. Vous pouvez également risquer, si vous connaissez un petit peu les ravioles, les ravioles italiennes. Là, vous pouvez les conjuguer avec une matière un peu grasse. Et tout ce qui va avoir un peu de gras, avec le muscat, ça va aller divinement bien. Effectivement, après, la place royale pour lui, ça sera un peu moins frais en dessert. Et là, on aura tous les chocolats qui vont très bien aller. Mais également, tous les caramels, tout ce qui est un peu aromatique. Voilà, moi je pense que ce vin-là, à menu, on va l'avoir à peu près à 9-10. Après, par contre, en dessert, il va falloir monter de 2-3 degrés.
D'accord. Et du Roquefort aussi, j'ai retenu.
Le Roquefort, oui.
Tous les fromages gras.
Voilà. Par contre, je ne sais pas si on en a parlé, donc sur le domaine, vous faites d'autres productions, je suppose. Vous êtes dans les rouges aussi dans
Oui, on fait un rosé. Après, on fait 4 blancs et c'est en rouge.
Très très bien. Ouais. Vous pratiquez la vinification à la bourguignonne, bordelaise.
Je vais vous dire, c'est monsieur.
Ah, bon, mais alors j'irai interroger monsieur.
Moi, je suis plus administratif.
Mais c'est très bien.
Vente au caveau et puis tout ce qui est salon.
Mais quand même, vous connaissez bien les vins parce que vous nous avez amené là une petite merveille.
Et puis bon, la vinification, si je l'aide en période de vendange, quand il a besoin de moi.
D'accord.
On va goûter le vin rouge de monsieur maintenant. Du coup, ben on va vous laisser la parole tant que monsieur serve son vin. On le laisse se servir, hein. C'est votre vin, hein, on n'oserait pas. Les réseaux sociaux, internet, tout ça, monsieur en parlait tout à l'heure qui s'y est mis, vous aussi, c'est le cas.
Là on est en construction de notre site. Ça prend du temps, puis bon, il fallait trouver la bonne personne. Parce que bon, il y a
aussi
des personnes.
Il y a beaucoup de gens qui le font, mais.
Il y a beaucoup de personnes qui le font, mais bon, c'est assez onéreux par mois, alors que bon, ça ne devrait pas être le cas. Et on a trouvé la personne qui nous correspond, avec qui on peut dialoguer, on peut exprimer exactement ce qu'on veut, et qui est en train de nous formaliser ça. Ensuite, on va refaire nos cartes de visite aussi, en harmonie avec le CITA, parce qu'il faut que tout soit en symbiose. Et on va faire des flyers aussi, donc tout est en gestation. Et c'est effectivement, après moi, malgré tout ce que je fais, j'essaie aussi d'alimenter Facebook pour que les clients puissent avoir des actualités du domaine. On met des photos, je mets des vidéos. On essaie de faire aussi des dégustations sur le domaine, petit à petit, pour aussi que les clients viennent, dégustent nos vins. On fait des petites tapas avec. Et puis, on fait une visite de la cave. Effectivement,
c'est vraiment
vrai
complet.
On essaye de suivre la mouvance, voilà. Malgré tout le travail, il faut de temps en temps toujours rester d'actualité, parce que le client plus il se souvient de nous, plus il aura tendance à revenir que si on tombe dans l'oubli.
Oui, c'est sûr. Guy, je vois une petite pastille sur cette bouteille de rouge.
Alors là, c'était un vin qui a été primé hier, donc sur le concours. Alors effectivement, je voyais Monsieur Cosset qui le disait, il est un petit peu chaud. On va pas le déguster au mieux. Par contre, d'habitude, c'est moi qui piège les viticulteurs, et là, c'est lui qui me piège. Il me piège parce que effectivement, après me l'avoir servi, j'ai essayé de rapidement analyser, voir un peu. Et j'avoue que en premier nez, j'ai été incapable de dire. Donc, je me suis dit à moi-même, ça, c'est un cépage qui est utilisé localement. Et il m'a amené la réponse, mais il va vous l'expliquer.
Oui, il m'a dit que c'était une interview sympa, là, mais en fait, c'est plus que l'interrogation écrite, quoi. On est en concours.
C'est ça.
Donc, le stress me gagne, quoi.
Voilà. Oh non, il faut pas.
Voilà. Non, donc, disons que, qu'on est sur un nez de, on va dire, de griotte, si vous voulez, de cerise archimure, si vous voulez. Bon, ça, c'est la typicité de ce vin-là, c'est le brocol, qui est un cépage qu'on a qu'à Gaillac. On l'appelle aussi fer salvado ailleurs, mais à Gaillac, c'est vraiment spécifique. Et le brocol, c'est un très, très vieux cépage qui, si on est raisonnable, et nous, sans prétention, je pense qu'on l'est parce que sur 34 hectares, on fait 30 hectares de moyenne, donc là-dessus, on est tranquille. On va pas dépasser 40 ou 45 hectares de rendement sur ces produits-là en rouge. Donc, en le conduisant tout à fait gentiment, il fait un produit qui est très, très concentré, archi-concentré. Par contre, on l'associe avec un peu de Duras et un tout petit peu de Syrah. Donc, on a 70% de brocol, 20% de Duras et 10% de Syrah. On pourrait caricaturer l'histoire en disant, si on parlait d'une maison, par exemple, le brocol, c'est la charpente. Le Duras, c'est les murs et la Syrah, c'est l'éclairage. Voilà, un peu pour de ça aux gens. Par contre, on fait un assemblage alors que d'autres sont dirigés sur des monocépages. Ça, c'est par respect par rapport à nos anciens. Là, nous, on est très attachés à ça. On est une boîte qui dure depuis 500 ans. On est très, 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 très attachés. Mon fils est dans cette même philosophie, de respecter tout ce qui a été fait par nos anciens. Les anciens se sont battus dans l'appellation pour avoir un assemblage. Donc on continue, parce qu'un assemblage, c'est comme un groupe de personnes, c'est comme un apport. Il y a toujours quelqu'un qui amène quelque chose de plus pour l'autre et qui le met en valeur. Alors que s'il est tout seul, même s'il est excellent, il va toujours lui manquer un petit truc. Voilà.
Mais alors donc sur Gaillac, le Gaillacois, il y a beaucoup de production encore de brocoli.
Oui, oui, normalement les appellations rouges sont en brocoli. Ouais. Il y a un autre cépage ancien qui est le prunelard,
oui,
que certains ont remis au goût du jour, mais que nous on n'a pas remis au goût du jour parce que les anciens l'avaient abandonné, contrairement au brocoli qui restait, parce que le prunelard est un cépage très capricieux. C'est-à-dire qu'il va, une année nous donner un produit exceptionnel, très bon, et puis il va passer 2 ou 3 ans après où ça sera vraiment pas terrible, quoi. Alors, ou on est courageux et on le met en bouteille tous les 2 ou 3 ans, ou on est moins courageux et on fait des assemblages et à ce moment-là, on a un produit qui est pas, voilà, pour nous qui est pas à la hauteur. Donc, on n'a pas remis de prunelard et il a été abandonné. Certains l'ont remis, bon, avec plus ou moins de succès, on respecte tout ça, il n'y a pas de problème.
C'est ce que j'allais dire, est-ce que là aussi, justement, c'est pas trop une contrainte?
Alors, l'AOC, l'AOP, c'est une contrainte voulue, mais pour nous, revendiquée, j'allais dire haut et fort. C'est une richesse, il faut le défendre. Là, si je peux me permettre 2 minutes, si vous voulez, on a, je vais caricaturer beaucoup, et je dis pas que j'ai raison. Je dis jamais que j'ai raison, c'est un point de vue personnel et de famille. Mais aujourd'hui, on va dire grosso modo, et malheureusement, on voit que ceux qui sont partis sur l'autre côté des vins mondialisés, on va toujours trouver un Sauvignon en Nouvelle-Zélande, un Chardonnay en Californie, un machin où vous voudrez. Bon, maintenant, avec le problème de la crise économique que tous ont subi malheureusement, bon, on a des problèmes de transport et autres, mais il n'y a pas si longtemps que ça, un conteneur de Singapour à Fos-sur-Mer coûtait moins cher que de Fos-sur-Mer à Gaillac ou à Bordeaux, quoi. Donc, on a toujours quelque part dans le monde donc des gens qui vont produire des choses, souvent avec des Français en plus, moins cher que nous et des choses qui sont quand même correctes. Donc si on ne sait pas se diversifier, à mon avis, on aura de gros soucis, quoi.
Mais je pense qu'on peut quand même résumer pour répondre un peu à ce que Ludovic posait comme question. Effectivement, avoir répondre avec une AOP AOC sur une bouteille, c'est quand même une garantie de terroir. Et aujourd'hui, les gens se battent bien sûr pour les avoir parce que les cahiers de charges sont assez rigoureux. Et ça donne le reflet de la région en question. Un des derniers localement à avoir été obtenu, c'est à proximité des duchés de Uzès, par exemple, hein, puisqu'ils ont 7 ans d'âge, tout simplement, donc c'est relativement récent. Moi, je crois que les AOP AOC ont toute leur place dans cette qualité-là que dans des AOP AOC. Donc, là aussi, ne vous arrêtez pas non plus à ce que l'on vous vend sur une étiquette, allez goûter chez le viticulteur.
Hein. Tout à fait.
Mais... je défendrai moi aussi cette définition-là parce que elle est porteuse de savoir-faire français. Ça, c'est sûr.
Il n'y a pas trop de labels.
On commence à défricher pour aller sur des bonnes appellations. Par contre, ce que je trouve, c'est un peu brouillon au niveau des logos. Les logos, il y a un cumul là-dessus qui est pas normal. Et même, on se prend un peu les pieds dans le tapis là. Mais bon. Je risque de surprendre les gens. Moi, je suis pas un fervent défenseur du bio. Je suis désolé. Pour moi, ça veut pas dire grand chose. Par contre, un viticulteur qui met le logo Déméter sur sa bouteille, alors là, oui, j'adhère.
Eh oui.
J'adhère parce qu'il y a une réelle prise de conscience. Le gars, il sait très bien qu'à la fin, il faut quand même qu'il travaille pour gagner de l'argent. Et à un moment, il faut être raisonnable. Quand la vigne est en péril, il faut aussi traiter là où ça a besoin d'être traité. On n'y va pas en dose homéopathique. Il faut vraiment être réactif.
Explique aux auditeurs ce que c'est ce logo Déméter.
On est au-delà du bio quand on est en Déméter, avec aussi pour éviter justement d'avoir la peau de perlimpinpin. J'appelle ça la peau de perlimpinpin. C'est la peau de corne de bœuf, des choses comme ça, parce que c'est de l'homéopathie. Ça, arrêtons maintenant, ça suffit. Mais par contre, quand vous avez des cèpes de vigne qui commencent à être attaquées, il faut réagir partir avant que toute la parcelle elle soit touchée. Le viticulteur, à la fin, il faudra bien qu'il paie ses factures. Mais par contre, on a une génération de nouveaux professionnels qui savent mettre des animaux dans la vigne pour aller gratter intelligemment, aérer le sol, etc. Donc on va être beaucoup moins mécanique, on va être beaucoup plus à l'écoute du sol. Du sol et du cep de vigne. C'est ça qui est intéressant. Et le Déméter, c'est ceux qui remercient. Voilà.
Et du coup, ces deux mondes dont vous parliez tout à l'heure, et ils vont vraiment encore plus s'écarter qu'ils le sont maintenant. Ils vont être vraiment différents, parce que j'imagine que vous, en étant une...
Oui, et pour rebondir sur ce que dit Monsieur le Président, là, c'est exactement ce que vous avez fait quand vous m'avez parlé de votre concours qui a été reconnu nationalement, etc. Bon, le fait de reconnaître la valeur travail de quelqu'un, la transparence, bon... Je veux pas enfoncer le clou, mais si j'ai une minute. Donc, alors quand on traite 17 fois, faut qu'on m'explique la pollution, le tassement des terrains, puis il se retrouve avec des produits ruissellement de cuivre qui, tout à l'heure, sont déjà dans le level. Parce qu'à force d'en mettre sur les feuilles qui vont dans la terre et dans les racines, aujourd'hui, ils remontent là, quoi. Donc, c'est ce que vient de dire le président, c'est est-ce qu'on refuse l'antibiotique ou pas, quoi. Par contre, on peut le raisonner, mais il faut aller encore plus loin que ça. C'est globalement, quels sont nos voisins? Comment ça se passe? Si on a des copains céréaliers ou pas, on n'est pas seul sur Terre, quoi. Quand on reçoit le nuage d'Afrique avec ses pollutions, on le prend comme tout le monde. Donc, arriver à un produit fini, nous, on s'est essayé sur le label des Europesticides, là, en 2017 déjà, on est dans cet axe-là, on était tranquille, on vérifie qu'on n'est rien, aucune molécule bizarre, si vous voulez, il y a 97 molécules analysées, la moitié autorisée, la moitié interdite. Le vin est pur, on vous donne le truc, on sait que par rapport au consommateur, on sera tranquille. Bon, les doses de soufre, c'est pareil. On fait des tests tout le temps et on met le minimum du minimum du minimum. Par contre, on explique aux gens que quand il faut se soigner, il faut se soigner, sinon on a un problème.
Puis, voilà. On est conscient aussi que 10 ans en arrière et voire plus loin, le vin était moins analysé qu'aujourd'hui.
Tout à fait.
La consommation du vin n'est pas en progression, il faut le dire. Par contre, en qualité, c'est extraordinaire, l'évolution des palais, et c'est devenu une culture, hein, le vin. Donc aujourd'hui, même dans les domaines familiaux, on fabrique plus dans le chai comme on faisait 15 ans en arrière. Aujourd'hui, il faut avoir des notions réelles d'œnologie et plus, je veux dire, le savoir qu'on hérite des parents.
Voilà.
On cherche plus à marquer le vin par une grosse charpente, quelque chose de boisé, tout ça. Non, c'est fini tout ça. C'est terminé. Maintenant, on veut du vin qui soit marqué aux fruits, marqué à la saveur. C'est gouléant. Il faut que ce soit sympathique comme ça. Et tout ça, c'est le consommateur qui a poussé dans ce sens-là. Mais en fait, en répondant à cette offre, et je trouve que la région Occitanie, c'est une des régions qui a le plus évolué dans ce domaine. Là. Parce que effectivement, ils sont partis de beaucoup plus loin. C'était une production de masse. Aujourd'hui, ils sont dans une production d'excellence. Et en plus, on se retrouve avec des vins qui sont dans une palette de prix très très comprimée. C'est pas cher, hein, les vins d'Occitanie. Quand on est à 15 euros maximum la bouteille, on a du haut de gamme. Hein. C'est ça qui est intéressant. Et en plus, on a un vin qui va pouvoir rester en cave un certain temps. Là, on sait vraiment ce qui a été mis dans le flacon. Après, je peux vous citer d'autres régions. Puisque je navigue quand même pas mal là-dessus, toutes n'ont pas eu ce passé-là. Bon, par contre, je défendrai quand même la Bourgogne, parce que c'est là que j'ai fait mes cartes.
Mais voilà. C'est où, la Bourgogne?
C'est un peu plus loin.
D'où l'importance, c'est vrai, de pouvoir rencontrer les producteurs, en fait. De voir comment ils travaillent, pour voir justement que le métier se fait vraiment de A à Z, et comment vous, vignerons, vous travaillez pour approcher justement C'est cette agriculture raisonnée, entre guillemets, hein, parce que c'est ça qui est important. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut aller soit à la rencontre des consommateurs, soit qu'eux, ils puissent venir.
Ouais. Mais si vous voulez, si je peux me permettre, nous, on les fait venir, les consommateurs, à la maison. Bon, on a la chance avec Corde, si vous voulez, bon, d'avoir un potentiel de gens qui se baladent important. Mais ils viennent chez nous, ils se baladent dans les vignes, ils rentrent à la cave. Quand on est en bandage, ils l'auront vinifié. On est France Passion depuis 22 ans. Les camping-caristes, ils sont à minuit avec nous à la cave, à tirer le truc, à rincer. Ils sont heureux comme des princes et ils voient un peu comment on travaille, quoi. Et ils adhèrent à ce moment-là, que vous disiez à l'instant, à notre travail, à cette qualité, à cette passion qu'on a et qu'on leur fait, dont ils sont demandeurs, quoi.
Mais aujourd'hui, on le voit, les viticulteurs, madame le disait tout à l'heure, ils ont été obligés également de trouver des astuces supplémentaires pour mettre le vin en avant. Ils créent des ateliers pour associer comme ceci, mais pour faire découvrir. Moi, j'amène d'autres adultes sur des lieux comme ça pour faire des rondes sur le vin. Eh bien, ils sont capables d'aménager une série de circuits en associant du patrimoine. Ils ont su se renouveler. Et aujourd'hui, partout, on a l'excellence. Bon, vous le disiez, vous, monsieur, sur le secteur de Cordes. Le Grand Écuyer, c'est quand même un des meilleurs ouvriers de France. Vous avez encore un pâtissier meilleur ouvrier de France. Ces gens-là, eh ben, ils descendent dans la rue et descendent même dans les vignobles pour aller faire de la démonstration culinaire. Et bravo, parce qu'il fallait avoir le courage de créer autre chose que un tourisme que sur du vin. Pouvoir associer un petit peu tout le régional, c'est bien. Après, la région Occitanie a été aussi très ouverte là-dessus. On peut dire que depuis 4-5 ans, là, il y a une volonté sur le Languedoc de communier absolument sur tout. Hein. Bravo.
Ben, merci beaucoup. On a bu beaucoup de temps. Voilà, on boit du temps dans cette émission. Et c'est quasiment 40 minutes qu'on discute ensemble. On va faire une pause musicale pour retrouver un ou deux viticulteurs pour clôturer cette émission qui nous resterait qu'une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Merci pour votre travail et pour toutes ces choses que vous nous apprenez ici. Merci.
C'est important. Merci beaucoup. Pam, pam, panam, pam.
J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives. Des globules métissés circulent dans les artères bouchées du cannibale aux mi-pattes métalliques roulant dans ses bouches qui, à l'eau, crachent les gens qui baillent et les mangent aux heures de pointe. Les titis n'ont pas le temps de leur ville, les passants viennent de loin. Nous, dès qu'on veut profiter d'elle, un peu la vie se complique. Courir sans la forme olympique vous trace le regard oblique. À force de pression constante, la tension va cesser, tomber par imprudence. Des gens qui s'aiment sans gare se laissent tomber. Je démontre un escargot à la coquille dure à pénétrer, mais elle monstre très beau. À chaque retour, vous reconnaîtrez Panam, 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 Panam. De bitume, sa voix ferrée te crie dessus, chuchote au marteau piqueur, les petits cœurs sont des fissures, le temps se divise par quatre dans son œsophage. C'est lui la bête, mais c'est nous qui sommes en cage. Sans changer de taille, il grossit au risque de serrer sa ceinture jusqu'à déchirer le périphérique. À part sur l'avenue, tu frappes à 10 mètres sans toucher le mur ou sans qu'on te bouscule face aux fourmis, tu te sens ridicule. Après tout, que serait Batman sans Gotham quand le monstre s'assombrit, que les sourires diminuent. C'est à cause des gratte-ciels que les nuages éternuent. Alors l'orage gronde et la foudre précède. Pam pam panam, 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 pam. Pam pam panam, panam, panam. Même dans ces rares passages, le soleil sait se faire beau. La chaleur accueillie tel un joli fardeau. Magistral au mois de mai, la joie devient capitale. À demi-nuit sur les terrasses, les fraîcheurs sont admirables. Les quais sont florissants, inondés de coulées vertes. Chaque rencontre se change en amicale découverte. Agrippés aux ailes des bateaux mouches, dans les parcs on pique-nique en chantant. Panam, Panam.
Et voilà, on est de retour, on vous le rappelle, en direct de l'espace événement Georges Fraîche pour la 13e édition du Salon du Vin à Mende, avec l'association Les Sarmentelles. Guy qui est resté avec nous. Et nous avons deux nouveaux viticulteurs, viticultrices qui sont arrivés à cette antenne. On va laisser madame se présenter et présenter son domaine.
Oui. Alors, moi, je suis de l'étang des Colombes. C'est en Corbière. Nous avons 140 hectares. Et voilà, c'est un domaine familial où c'est la quatrième génération.
Et monsieur ?
Alors nous, on est sur un beaucoup plus petit domaine, on est sur 15 hectares, un domaine familial, reprise d'activité il y a 10 ans. Et on travaille familial, bon, c'est moi et ma femme quoi, en fait, hein, tout simplement, voilà.
Alors là, par contre, donc, on est sur l'Aude et là, par contre, on est sur les PO. Hein.
Ouais, voilà, tout à fait.
C'est un petit peu la différence. Alors l'Aude, on a dit, bon, une dame, allez, on va prendre un vin blanc. Sur les PO, monsieur a été primé hier sur un vin très, très puissant. On va peut-être pas aller sur ce vin-là, mais il y avait quelque chose qui m'intéressait chez lui. Alors, je me suis permis de lui demander d'amener celui-là.
Oh, ben, c'est bien. Du vin blanc, vous faites du vin blanc, vous faites du rouge, du rosé, vous faites un peu de tout.
On fait les trois couleurs, oui, rosé, rouge et blanc. En blanc, on a trois sortes, trois cuvées différentes.
D'accord, et donc là, vous venez nous présenter.
C'est le 100% Viognier.
D'accord.
Alors, Étang des Colombes, pour situer géographiquement, on est à proximité de Lézignan-Corbière, c'est à Cruscade. Donc, on est quand même sur un terroir un peu particulier. Et en plus, c'est une zone qui a été asséchée carrément. C'est pour ça le nom, Étang des Colombes. Et ce domaine familial, pour l'avoir visité encore récemment, puisque effectivement on a apprécié cet déplacement-là pour une saucissonnade, pardon de l'avouer, ils ont voulu actualiser un petit peu tout ce domaine. Il y a quelques années en arrière, ils ont carrément créé un chai enterré 7 mètres sous terre. On a une inertie totale et donc effectivement, on a une voûte qui couvre tout le chai et qui est aérée régulièrement. Donc on a une constance en température, c'est parfait. Et on a après de la brique qui nous conduit jusque sous une forme de couloir jusqu'au chai. Et on récupère l'humidité environnante pour la renvoyer en courant d'air vers le chai. Donc ça c'est parfait, c'est la solution idéale. Peut-être qu'on pourrait le goûter ce petit Viognier finalement. Ah. Merci.
Alors en attendant, pendant que...
Voilà, donc alors là, elle m'a dit, moi je parle peu, hein, mais c'est dommage parce qu'en fait elle connaît très très bien le domaine. Viognier, c'est un cépage qui reprend de l'importance sur la région Occitanie et principalement sur Languedoc-Roussillon. Et effectivement, il y a une saveur assez abricot qu'on va retrouver, etc. C'est un cépage qui trouve sa place de plus en plus dans les apéritifs, mais aussi après on va le conjuguer sur quelques desserts, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Vous avez très bien parlé. Vous avez tout dit.
Ah ben non. Voilà, là on va goûter le Viognier, mais après l'autre blanc que vous avez.
Alors l'autre blanc c'est un assemblage. Alors c'est Grenache, Macabeu et Bourboulin. Voilà. Mais voilà, là c'est 100% Viognier.
Voilà, donc quand on met Macabeu, Bourboulin, on est un peu moins féminin qu'avec le Viognier.
Voilà.
On est un peu plus pour les grands. Voilà.
C'est plus sec.
Donc ça c'est plutôt un vin d'apéritif alors ?
Pas uniquement, mais oui, ça
avec
se retrouve
avec des crustacés. Ouais.
Voilà, ça se retrouve très bien avec certains produits de la mer. C'est intéressant et voire même avec du tartare de fruits de mer. C'est impeccable, bien sûr.
Monsieur le viticulteur.
Alors les PO, qu'est-ce qu'ils en pensent ?
Eh ben, il y a une très très bonne fraîcheur, très belle fraîcheur sur ce. C'est très vif. C'est vrai que sur un apéritif avec les températures qu'on a actuellement, je pense que.
Ah, il y a une mise en bouche directe, là, on le prend de suite.
C'est ce qu'on apprécie, et c'est ce que les gens recherchent beaucoup maintenant dans les vins actuellement, c'est des vins prêts à boire, des vins sur le fruit, des vins faciles. On cherche plus la complexité comme on a pu chercher il y a quelques années en arrière.
Et c'est vrai que, bon, on le voit avec des températures qui progressent comme ceci, un Viognier, c'est bien parce que ça se prend calmement là aussi, ça se déguste et ça se garde un petit peu frais. Ouais. Alors après, les Viogniers, il faut quand même essayer d'éviter de les servir dans des verres trop larges, hein, parce qu'on voit par exemple les verres, les Alsace, ils sont pas profonds, mais ils ont une ouverture importante. Et c'est complètement, ça dérange pour des cépages comme le Viognier. Il faut voilà revenir sur les verres INAO ou les suprêmes comme ceci, où on a une concentration au nez. Et cette saveur, elle va durer un petit peu en fond de gorge. Il faut qu'on la garde comme ça. Et c'est grâce au verre aussi qu'on va travailler le vin dans ce sens-là. Alors après, vous pouvez le faire évoluer. Hein. Là, on l'a dégusté assez frais, plutôt à très bonne température, merci. Mais si vous voulez voir un vin, ses défauts, laissez-le se réchauffer. Et soit sa qualité vous apparaîtra immédiatement, soit les défauts vont vous sauter à la figure immédiatement. Et ici, moi, j'ai fait ce test. Tout récemment, le 3 juin, ou le 4 plutôt, oui. Et en fait, j'ai été ravi, voilà. C'est un vin qui est constant. Bon, après, une famille qui travaille depuis plusieurs générations dessus, ils connaissent le sol, ils connaissent le cep de vigne. Après, effectivement, le domaine de la Scoum nous parlera un petit peu, puisque ouais. C'est un domaine un peu plus petit. Quand on est sur de la vigne comme ça, qui se passe génération en génération, on connaît presque tous les secrets.
Oui, là, vous avez dit c'est une entreprise familiale. Vous êtes nombreux à travailler sur le domaine.
Alors à l'année, on est une dizaine. Alors moi, je suis la comptable. Hein, je fais pas partie du tout de la famille, mais on est une dizaine à l'année à travailler. Après, on a tous les saisonniers. On a 9 tailleurs qui viennent pour la saison de novembre à mars. Et après, on a une vingtaine de vendangeurs en septembre. Mais à l'année, on est une dizaine.
Et par contre, vous aviez été dérangé un petit peu par les incidences climatiques des dernières années.
Voilà, le gel, on a eu 70% de pertes.
Et oui, alors ça, effectivement, dernière, c'est difficile à rattraper, hein, parce que pour peu qu'il y ait une catastrophe cette année encore, ça va dire...
Ça va être compliqué à faire le lien avec les nouveaux millésimes.
Quelle année ce vin-là ?
2021,
d'accord.
C'est vrai que c'est très jeune, mais le Viognier, c'est pas fait pour... Oui. On spécule pas dessus. Hein. Oui. C'est un vin à déguster rapidement, parce que justement, c'est pour avoir tout l'intérêt, toute la concentration des parfums. Hein.
Bien sûr. Oui.
En plus, là, on le voit, il est tout à fait limpide et tout. Et pourtant, pour l'avoir vu dans la cave, il n'y a pas de filtrage mécanique. On est quand même sur quelque chose de très intéressant en élaboration. Donc ça, c'est bien. Ouais.
Et vous, une fraîcheur, une belle aromatique, hein. On est un petit peu sur. Alors nous, on est un cépage différent. On est un muscat sec qu'on présente aussi, et on a un peu les mêmes profils, quoi. Sauf que l'aromatique est différent, mais sinon c'est vraiment pareil. C'est vraiment des vins sur la fraîcheur qu'on sert sur le millésime, et il n'y a pas de. Alors, on peut garder ces vins-là, mais il n'y a pas d'intérêt en fait, puisque c'est des vins qu'on recherche que sur la fraîcheur, le plaisir, la vivacité. Après, il va s'estomper, il va se modifier, il va s'oxyder, c'est toujours bon à boire, mais moi, je trouve plus d'intérêt. Quoi. Voilà.
Domaine de la Scoum, on peut quand même le situer aussi, hein, puisque c'est une production en Côte de Roussillon et Roussillon. Hein.
Roussillon, donc, IGP Côte-Catalane et AOP Rivesaltes. On est un petit village de Cazes-de-Peine, donc on est sur le début de la vallée de la Glie. On est à 5 minutes à peu près de Rivesaltes, 10 minutes de Perpignan pour situer plus facilement. Et la vallée de la Glie, ben, ce qui est vraiment connu chez nous, c'est le Maury. Donc voilà, on est à 20 minutes de Maury.
Enfin bon, là, on est quand même sur une gamme de vins tranquilles, c'est-à-dire donc c'est doux, mais c'est fort.
Voilà, c'est doux, c'est fort, ça fait 15,5 et c'est des vins qui sont, on peut pas dire en perte de vitesse, mais ouais, c'est ce que je disais, on n'est plus sur les vins à la mode là. Nous maintenant, on est sur des vins avec de la fraîcheur, de la vivacité, et ces vins-là, les VDN, ouais, sont quand même en perte de vitesse.
Mais tout à l'heure, vous le disiez, l'un et l'autre, donc le 48 FM. Aujourd'hui, les personnes cherchent un vin de consommation rapide, mais quand même qui ait une empreinte, une identité à l'intérieur du flacon. Ouais. Et c'est vers ce vous vous orientez de plus en plus.
Oui,
et tous les petits domaines ont très bien compris ça et ils le gèrent très très bien. C'est ce qui est intéressant.
De toute façon, notre salut passe que par là. Hein. C'est d'avoir des vins authentiques, des vins qui nous ressemblent, des vins, quand on les présente en salon ou devant des personnes, qui puissent s'identifier à nos vins, quoi. Parce que sinon.
Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'effectivement, là, on côtoie des vins d'excellence dans ce salon. Et puis, sur la Lozère, bon, merci, on a déjà deux domaines, et ça, c'est génial. Ce sont deux domaines qui sont sur les gorges du Tarn. Peut-être, probablement, même bientôt un troisième qui va s'installer. Donc, mieux, mais on manque encore de, comment dire, pas de dépositaire, mais de lieu de compétence ici pour mettre en avant les vins qu'on reçoit aujourd'hui, par exemple. Alors on a quelques cavistes, mais on n'a pas toutes ces références-là. Et je le regrette vivement, parce que les gens qui ne peuvent pas venir sur le salon ne peuvent pas retrouver ces références-là, ou enfin ils en retrouvent quelques-unes, mais ils ne les retrouvent pas toutes. Et c'est dommage, parce que justement, le domaine de la SCOUM, on n'a pas de représentation ici. On n'a pas, et ça, ça nous manque. Ça nous manque vraiment. Parce que les Mories, il y a une connaissance de ce vin muté et tout qui est un peu lourd, un peu. Alors que les vins tranquilles qui se produisent dans ce secteur, c'est comme certains bagnoles ou les Collioures, mais c'est génial ça. Vous pouvez boire ça pour des repas de fête, parce que c'est quand même un beau vin hein, aussi. Et pareil, à Étang des Colombes, je sais, le Bois des Dames, hein, alors, ça, c'est un vin construit. C'est pas pesant, c'est pas associé avec des plats en sauce. Il faut au contraire travailler sur de la belle viande comme on a nous ici, parce que il y a un parfait accompagnement. Ça, c'est génial.
Donc tu disais le vin de Monsieur Primé, c'est un vin fort.
Alors, en fait, on a une grande présence du Roussillon dans le flacon, là, ouais, c'est Imperium, c'est ça. Ouais. Et en plus, on était sur un 2019.
On est sur des terroirs, des marnes noires, des schistes, et on est sur des très très faibles rendements, donc très grosse concentration. Moi, je suis sur la totalité, on est à 25 hectohectares sur le domaine, et sur ce vin-là, on est à peine à 18 hectohectares.
Alors là, les particularités, en plus, on peut le dire, hein, les vins qui naissent sur des terroirs de schiste, ce sont en règle générale des vins qui sont très rectilignes, mais très sophistiqués. C'est des vins de dentelle. Et donc, avoir un vin puissant qui a cet impératif du schiste à l'intérieur, c'est brillant. Après, nous, on fait vraiment la différence. On le sent, nos premiers nez, ça se sent, hein, ça, au bout d'un moment. Et c'est à souligner. C'est assez rare. De confondre un vin de schiste avec un coteau, un ébouli caillouteux, calcaire, des choses comme ça. De toute façon, même ça serait une grosse erreur dans notre métier. Hein. Mais c'est bien parce que également à Fitou, ils ont le cas. Il y a deux lentilles de Fitou, une proche de la mer, une autre plus sur des schistes. Et je vous garantis que je me suis fait piéger plus d'une fois sur des vins de Fitou comme ça. Hein.
Ah oui, c'est vrai que
c'est incroyable. Hein. Et les degrés n'ont pas une grande importance là. On reconnaît plus le vin au degré. On le reconnaît tout simplement parce que le terroir est différent en sous-sol. C'est ce qui est important aussi.
Sur le vin primé justement d'hier, on était sur un vin à 15,5, comme je dis entre guillemets hors taxe, puisqu'il y a une tolérance à l'affichage. On était plus proche du 16 degrés. Et c'est des vins quand ils sont servis à bonne température. Il n'y a pas de souci en fait. C'est des vins, effectivement, quand on les sert avec des températures comme aujourd'hui, si on le sert, entre guillemets, comme les anciens disaient, chambré, eh bien, on n'a que l'alcool. Hein, donc on est brûlé de l'intérieur. Mais c'est des vins, après, qu'il faut savoir... alors, moi, je suis de la vieille école aussi, hein, mais j'ai appris à le faire maintenant. C'est des vins en dégustation que je sers frais maintenant, tout simplement.
Mais restez dans la vieille école, parce que pour avoir goûté plusieurs de vos vins, ils sont plus qu'intéressants et il faut évoluer, mais il faut aussi savoir conserver quelques belles cartes dans son jeu.
Notre base, c'est l'historique, c'est les anciens, c'est la connaissance qu'on parlait tout à l'heure sur d'autres domaines, la connaissance en fait des terrains, et c'est les anciens de façon empirique qui la connaissent, c'est pas nous avec nos nouveaux.
Vos plus vieilles vignes,
elles ont 80 ans.
Donc il faut imaginer 80 ans, ça produit très très peu.
Voilà, mais c'est pour ça qu'on
parle. Mais alors, c'est du nectar, voilà. C'est d'un concentré de.
Tout à fait.
De saveur. Voilà. Étang des Colombes, combien à peu près les vignes? Une moyenne d'âge des 30-35 et après les plus vieilles 60 ans.
60 ans, ouais.
Ouais, déjà 60 ans, c'est une belle richesse. Hein.
Oui.
Vous avez intérêt à garder ceci pourvu que vous soyez pas touché par la grêle, etc. Mais vous êtes pas dans une zone comme ça, vous vraiment. Ça grêle pas tellement sur les Ignans en règle générale.
Ah, s'il avait grêlé, nous en 92 la dernière année.
Ah oui, mais là vous voyez, vous êtes bon pour Alzheimer, c'est bon, vous serez pas concerné. Oui. 92, ça fait loin. Hein.
Ouais,
non, c'est quand même assez rare la grêle sur les Ignans en général.
C'est rare.
Oui. Un cruscade, tout ça. Vous, par contre, sur Roussillon, vous avez
alors,
des,
le Roussillon, des passages très impactés, vantés. Mais alors, on va dire qu'on a un microclimat sur Casse de Peine.
Ah, d'accord.
Et la grêle, le gel, ça arrive jusqu'à Estagel, donc c'est à 8 km.
D'accord.
L'année dernière, il y a eu un gel à moins 8 à Estagel, nous on était à 0. Et la grêle, c'est pareil, on la voit arriver et en général, elle fuit sur l'Aude et elle fuit sur les Aspres. Donc on a cette chance-là. Alors des fois, on aimerait bien avoir la queue d'orage avec un petit peu d'eau, mais pour avoir des cailloux, c'est pas la peine.
Là, cette année, on annonce quand même un été particulièrement chaud.
Ouais.
Donc comment ça va se présenter pour vous? La récolte va baisser en quantité, ça c'est une évidence. Maintenant, peut-être qu'on va monter encore en qualité.
Nous, pour l'instant, ça se présente très bien. On a eu un petit orage le lundi de Pentecôte où on a pris pratiquement 30 millimètres, donc qui est très très bon. Et après, on prie, on fait brûler des cierges pour en avoir deux, pareil, 14 juillet, 15 août. Mais pour l'instant, non, on a une végétation qui est très très belle. L'estimage, mais juste pour pouvoir passer pour traiter, et je fais que le rang où je traite. Donc, ce qui fait que je garde le plus possible de végétation pour aider à la photosynthèse, garder de l'ombre, voilà.
Bon, vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé de vin rosé.
Non, c'est vrai.
Mais vous savez très bien que j'aime pas spécialement.
Oui, on sait.
Par contre, j'aime bien les rouges. Ah. Alors, ça serait bien si on pouvait le goûter.
Allez. Pour clôturer cette émission.
En fait, je suis assez ennuyeux sur les vins rosés. D'abord, j'ai pas une grande connaissance, mais tout de même, j'arrive à faire de la différence entre du vin de pressurage et du vin de saignée. On peut en dire deux mots. Bon, le rosé, c'est pour faire de la trésorerie en cave, c'est pour coller à une actualité mode de consommation. Ça se boit très frais, voilà, des choses comme ça. Mais, pardon, merci. Mais quand on veut parler patrimoine, culture, savoir, compétences et accords, on va aller ou sur du blanc ou sur du rouge. Il faut rester logique, voilà. Ici, vous avez un vin avec un nez un petit peu discret dans le premier nez, mais ça va évoluer. Par contre, on a une grande limpidité en bouche. Je vais le déguster tout à l'heure. Là, par contre, je crois qu'on n'est pas sur les mêmes cépages que sur l'impérial.
Alors là, on est sur 50% grenache, 50% carignan.
Voilà.
Donc, chez moi, bon, il n'y a pas de nom spécifique dessus, mais moi, je l'appelle le vin des copains, en fait. C'est le vin qu'on peut ouvrir un petit peu à toute heure chez nous, qu'on peut boire justement frais sur une grillade. Et c'est le vin qui va réunir un petit peu tout le monde. Les femmes dessus sont d'accord, on a un petit peu de sucrosité, voilà. Et ça correspond un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est une gamme de vins où les gens vont se retrouver parce que c'est simple à boire. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Voilà.
Ah oui, mais quand même, il y a du fruit mûr là, il y a du bon retour.
Fruit mûr, ouais. Oui, parce que de toute façon, moi je ramasse pour faire des rouges.
Ah, mais la vendange, elle est bonne là.
On est à maturité quoi. Yeah. Je veux dire, un carignan c'est 14,5, un grenache c'est 15,5, une syrah chez moi c'est 16,5.
Aucune saveur sur la rafle, rien
non,
quoi. Hein.
Non, on est tout en égrappé et voilà, on cherche vraiment le fruit mûr et. Vraiment avoir une maturité complète du raisin.
Parce que là, il est de quelle année ce vin ?
Là, on est sur un 2020.
2020, puisqu'il y a 2020, déjà du caractère.
C'est des vins qui peuvent se garder 7-8 ans. Moi, je les préconise en vente à 3-4 ans parce que je veux rester sur ce type-là, en fait, ce profil-là. Après, derrière 7-8 ans, ce sera toujours bon, mais on va perdre du fruit, on va, voilà.
Oui, alors après, je sais pas, bon, je connais pas très bien les vins que vous produisez, on va en parler dans la journée, mais vous voyez, ce vin me fait penser un petit peu à ce qui se fait sur Cahors. Les Cahors, ça se boit à 1 an, 2 ans, et puis on arrête. On ne touche plus le Cahors. Le Cahors, ça se boit pas à 3 ans, ni à 4 ans, ni à 5 ans. On recommencera à boire le Cahors à 6 ans, à 7 ans. Les Cahors ont la particularité, il faut les laisser 3 ans de repos. Ou on les boit jeunes, ou on les boit avec un peu de bouteille, comme on dit. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur une même configuration.
Oui, pardon. Ouais, hein. Mais moi, je le vends plus, voilà, comme un vin. Ouais. Voilà.
Là, c'est un vin des connaisseurs, quand même. Vous disiez, c'est un vin de copain, je veux bien. Mais quand même.
Ouais, non, mais il y a quand même une belle structure dessus.
Ah ouais.
Une belle structure. Mais voilà.
Là, vous avez essayé de nous blouser, là. Hein.
Chez moi, en fait, c'est pour moi.
Ah oui, d'accord.
C'est mon vin des copains. Les autres sont encore un peu plus complexes.
Il est absolument délicieux. Il n'y a aucune saveur de pépère, aucune astringence là-dessus. On n'a que de la qualité là. Hein.
Après oui, c'est ça, c'est quelque chose quand même qui est important, c'est de faire un vin qui nous plaise aussi à soi. Pas forcément de faire quelque chose qui plaît au marché ou qui plaît à...
Alors, c'est le, entre guillemets, le loisir des vignerons indépendants, c'est de faire des vins qui nous plaisent parce que nous, on doit vendre nos vins devant en salon, devant en marché, devant des clients qui sont juste devant nous et qui goûtent nos vins. Donc si on sait pas leur en parler, si on n'est pas passionné par nos vins, on a un problème. Alors que les gens qui vendent majoritairement en grande surface n'ont pas ce problème-là. Eux, ils veulent un vin propre, commercialement parlant, et ils veulent une belle étiquette, un beau packaging, et c'est tout. En fait, c'est tout ce qui les intéresse, ces gens-là. Voilà, donc, et les gens qui vont acheter les vins en supermarché achètent avec l'œil. Ils achètent une étiquette, ils achètent un cru, ils achètent un millésime, par exemple, un vin primé au concours à Paris, et des choses comme ça, quoi. Leurs seuls repères sont là-dessus.
Alors, un vin primé concours amende, c'est pas mal aussi.
Moi, je fais des petits concours maintenant. Je fais plus de concours Paris, Mâcon, des choses comme ça, parce que je trouve que ça devient hors de prix. Je les fais dans les petits salons, comme là, comme Amande, parce que c'est très bien. Et ça nous procure juste, personnellement, à moi et ma femme, juste le plaisir d'être primé, parce qu'en fait, on se dit, il y a une reconnaissance de gens qui connaissent les vins. Parce que des concours, il y a d'autres concours où, par exemple, vous allez tomber sur des tables, où ça sera des, la table sera à 100% sur un domaine ou sur une cave cop. Et forcément, ils vont sortir primés. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ces gens-là, ils proposent des fois 50 échantillons par concours. Donc, heureusement qu'ils sortent primés, parce que sinon, ça veut dire qu'ils sont, entre guillemets, je veux pas être méchant, mais mauvais, quoi.
Je suis ravi que vous disiez ceci à propos des concours des vins, parce que pour en avoir pratiqué, Dieu sait si maintenant j'adhère plus à l'idée du grand concours international. Là, il faut avoir un gros portefeuille derrière et une machine de guerre pour arriver à faire ces... Moi, je préfère les bêtes de concours du Languedoc, par exemple, ou du Roussillon, hein, bien sûr, parce que effectivement, c'est des gens qui ont mis tout leur savoir, toutes leurs compétences et tous leurs espoirs dans le flacon. Et autant une année, ils vont vraiment réussir. L'année suivante, ils passeront à travers. Mais ils se rattraperont mieux l'année d'après. On apprend plus dans l'échec que dans la victoire. Oui. Et c'est tout ça. Les vins des grands concours, quand ils finissent sur les tables à Paris ou autre, bon, en règle générale, on connaît les domaines. On sait que c'est des grosses affaires. Soyons pas, ne tournons pas autour du pot. Voilà. Mais si vous voulez vous régaler, l'idée, c'est d'aller chez un caviste, ou carrément, comme moi je le fais, je pense que, pardon de le dire, mais je suis dans la vérité, moi je vais directement chez viticulteur.
Voilà, et comme c'est pas toujours facile, mais vous pouvez venir ici à l'espace événement Georges Fraîche encore cet après-midi, comme ça vous serez directement en face des viticulteurs pour les écouter, parler de leur vin et bien sûr le goûter.
Ben oui, merci 48 FM, merci pour ce passage.
Voilà, ben merci à vous, et on lance une musique, on lâche l'antenne, et je vous retrouve ce soir pour les élections législatives. On sera en direct à 8h pour donner les gagnants, le gagnant ou la gagnante, en l'occurrence ici Amande.
Parité.
Voilà, parité, mais il n'y en aura qu'un qui sortira, aucune, donc on vous le dira ce soir à 20h. Merci beaucoup, n'hésitez pas à venir Amande à l'espace événement. Ça se jusqu'à quelle heure cet après-midi, Guy ?
Ben en fait, comme on a tourné assez léger hier, on avait prévu 17h, mais les viticulteurs qui resteront un peu plus, de toute façon jusqu'à 18h ça sera ouvert, hein, on sera là, et on sera là avec les bons vins de la région.
Allez, merci beaucoup.